Bonsoir Claire Servageon.
Bonsoir Charline Vanhoenacker, on vous souhaite un bon week-end et on vous dit à lundi. C'est parti pour le 18-20 du vendredi, 18h15, une semaine en France, et pas qu'en France ce soir, avec Michel Elchaninov, rédacteur en chef à Philosophie Magazine. Il est l'auteur d'un livre intitulé « Dans la tête de Vladimir Poutine ». À 19h, le journal de Cécile Bideau. À 19h20, au téléphone sonne. Quelles conséquences la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine peut-elle avoir sur la présidentielle ici en France? On en parle au 01 45 24 7000. Vous pouvez déjà nous appeler, le standard est ouvert. Mais d'abord le journal de 18h. Bonsoir Sébastien Legénie.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, l'étau se resserre autour de la ville de Kiev. Les troupes terrestres russes qui avancent vite et s'approchent de plus en plus de la capitale ukrainienne. Nous serons sur place à Kiev dans un instant pour ce deuxième jour de guerre. Nous serons également à Moscou. Le Kremlin propose déjà des pourparlers aux Ukrainiens. Véritable main tendue ou nouvelle manipulation politique, nous poserons la question à notre correspondant. Sur le terrain, la population hésite entre fuir ou prendre les armes. 50 000 réfugiés déjà depuis le début des combats, mais beaucoup restent aussi terrés au sous-sol de leurs immeubles. Récit à suivre. À suivre aussi les sanctions qui se durcissent contre le Kremlin. Vladimir Poutine désormais visé directement. En revanche, l'exclusion de la Russie des systèmes d'échange financiers fait encore débat parmi les Européens. Les députés européens, eux, qui appellent à intégrer l'Ukraine dans l'Europe. On entendra Daniel Cohn-Bendit. Et puis enfin, une respiration pour terminer avec une exposition sur le carnaval de Rio.
France Inter. Une capitale ukrainienne presque encerclée ce soir et un président russe qui fait mine de tendre la main.
Oui, la ville de Kiev est en effet presque assiégée ce soir par les forces russes. La pression militaire n'a cessé de monter toute la journée avec des bombardements à quelques kilomètres à peine du centre-ville, des opérations de sabotage menées par des commandos infiltrés. Bref, une situation militaire de plus en plus critique. On y reviendra. Et c'est ce moment qu'a choisi Vladimir Poutine pour prendre la parole à la télévision et mettre un nouveau coup de pression. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Sébastien.
Correspondant à Moscou, le Kremlin qui se dit prêt à des pourparlers diplomatiques, mais sous strictes conditions.
Oui, le Kremlin serait prêt à négocier avec Kiev, c'est ce qu'a expliqué tout à l'heure Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine. Une rencontre pourrait avoir lieu à Minsk, a-t-il dit, en Biélorussie, donc pas vraiment en territoire neutre, tant Moscou et Minsk marchent main dans la main dans cette crise. Le Kremlin s'est d'ailleurs senti obligé de préciser que la sécurité de Volodymyr Zelensky serait assurée s'il se rendait à Minsk. Le pouvoir ukrainien, lui de son côté, avait signifié qu'il était plutôt prêt à discuter, mais en Pologne. À cette heure-ci, il n'y a aucune confirmation du côté de Kiev. Il n'est absolument pas certain que cette rencontre ait lieu.
Et Vladimir Poutine qui, dans un second temps, dans une déclaration un peu étrange, appelle aussi l'armée ukrainienne, cette fois, à renverser le pouvoir à Kiev.
Oui, et ça rend encore moins probable, du coup, l'hypothèse de la rencontre dont nous parlions à l'instant. Le Kremlin qui a mis en ligne tout à l'heure une vidéo de Vladimir Poutine qui s'exprimait en vidéoconférence face à son conseil de sécurité. Et le propos est une nouvelle fois d'une violence inouïe. Il s'adresse effectivement à l'armée ukrainienne, leur demande de prendre le pouvoir. Prenez le pouvoir entre vos mains. Il me semble qu'il sera plus facile de négocier entre vous et moi qu'avec cette clique de toxicomanes et de néo-nazis. Le mot toxicomane s'adresse directement à Volodymyr Zelensky. Lors de son élection en 2019, certains de ses concurrents, de ses détracteurs, avaient fait courir des rumeurs selon lesquelles il était un drogué. Il dit également, finalement, la vision qu'a Vladimir Poutine du président ukrainien, qui représente, vous savez, c'est un ancien homme de télévision, tout ce que le président russe déteste, au fond, quelque part. C'est un homme du monde culturel, c'est un homme considéré comme proche de l'Occident, avec lequel il paraît difficile quand même que le Kremlin puisse discuter aujourd'hui.
Voilà, Sylvain Tronchet, merci. Correspondant de France Inter en direct de Moscou. Ces nouvelles déclarations de Vladimir Poutine interviennent, on le disait, alors que la nasse de l'armée russe se resserre d'heure en heure autour de Kiev. Attaque sur tous les fronts, en nord, à l'est, à l'ouest. Le maire de Kiev qui a déclaré cet après-midi que la capitale était entrée dans une phase défensive. Le ministère de la Défense qui appelle, lui, les habitants à prendre les armes et à fabriquer des cocktails Molotov. Bonsoir Eric Biagala.
Bonsoir.
L'un de nos envoyés spéciaux à Kiev, Eric, la capitale ukrainienne est-elle sur le point de tomber aux mains des forces russes ?
Bah, a priori, pas vraiment, pas du tout même. Vous savez, pour prendre une ville de plusieurs millions d'habitants, en quelques jours, il n'y a pas plusieurs cas de figure.
Ah, un problème de liaison.
Il suffit
avec notre correspondant
qu'elle ne soit pas
Eric Biagala, que nous tenterons de rappeler plus tard. Eric, qui effectivement est sur la capitale à Kiev pour l'instant. Nous retrouverons Eric Biagala un peu plus tard. Les autorités ukrainiennes, elles, ont fait part d'un premier bilan des victimes et parlent ce soir de 137 morts, de 316 blessés, civils et militaires confondus. Un bilan totalement invérifiable de sources indépendantes à cette heure. Ajoutons cette inquiétude des autorités ukrainiennes autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl, désormais aux mains de l'armée russe. Des données de radiation préoccupantes y ont été enregistrées, peut-être dues à la poussière soulevée par les chars aux alentours, les chars russes. L'Institut de sûreté nucléaire français dit ne pas avoir d'informations permettant de confirmer ou d'infirmer cette hausse possible de la radioactivité. Aucune augmentation, en tout cas, n'a été détectée dans les pays européens autour de l'Ukraine. Les rues de Kiev, cette ville de 3 millions d'habitants, sont ce soir en partie désertées. Passé le chaos de la journée d'hier où des dizaines de milliers de personnes ont tenté de fuir, 50 000 réfugiés ukrainiens ont fui en moins de 48 heures selon l'ONU, eh bien les civils sont désormais terrés chez eux, les routes devenues trop dangereuses pour partir. On se protège donc comme on peut dans les sous-sols, le métro transformé en abri. Bonsoir Ajra Mohamed.
Bonsoir.
Et vous avez recueilli le témoignage d'une habitante qui, elle, raconte son quotidien sous son immeuble.
Oui, un quotidien rythmé par les sirènes d'alerte pour Olga et sa famille. Ils vivent à Kiev et aujourd'hui, ils sont allés se réfugier dans le sous-sol de leur immeuble à plusieurs reprises.
La première fois, c'était à 5 heures du matin. On est descendu parce qu'il y avait des sirènes et il y avait les menaces d'attaque. Et au total, on avait peut-être 5 ou 6 sirènes pendant la journée. Et chaque fois, on est descendu. Ça nous prend, je ne sais pas, moins d'une minute de prendre nos sacs à dos, de nous habiller et de descendre.
Et une fois dans cet abri, Olga a dû attendre avec une dizaine de voisins aussi, parfois pendant des heures et dans des conditions sommaires.
Ça, c'est juste un sous-sol. Et donc, il n'y avait presque rien. Donc, il y avait la lumière. Et il y a une prise et c'est tout. C'est tout le confort qu'on a. Et on y a apporté les plaids, les chaises, donc pour s'y installer plus ou moins confortable. Et donc, peut-être une fois, on y est resté pendant 2 heures ou même 2h30. C'est très angoissant. Et si nous entendons les bombardements, c'est même pire.
Et si Olga et sa famille ont accès, eux, à un abri anti-bombe dans leur immeuble, ce n'est pas le cas de tous les Ukrainiens à Kiev. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'entre eux sont allés s'installer dans le métro, métro conçu, lui, pour résister au bombardement.
Ajra Mohamed, on repart maintenant pour Kiev, où l'on a retrouvé notre envoyé spécial Eric Biagala. Vous nous disiez, Eric, que la capitale Kiev, certes encerclée en partie, est loin, très loin d'être tombée pour l'instant.
Oui, l'argument principal quand on veut prendre une ville et surtout en quelques jours, c'est que pour la prendre, il suffit simplement qu'elle ne soit pas défendue, ce qui est absolument pas le cas à Kiev. L'ordre de mobilisation générale est tombé hier. Tous les hommes de 18 à 60 ans sont censés pouvoir prendre les armes incessamment. Alors il y a dans cette population des réservistes du service militaire, des réservistes qui sont aussi très souvent des vétérans des combats dans le Donbass. Alors n'oublions pas, la guerre en Ukraine sur un temps pour certains un petit peu moins fort qu'aujourd'hui, mais dure quand même depuis plus de 7 ans et beaucoup de jeunes Ukrainiens sont donc bien aguerris. Et ceux qui ne le sont pas reçoivent une formation express, mais normalement ne devrait pas être envoyé au front, a promis l'état-major. Le ministère de l'Intérieur annonçait tout à l'heure que depuis hier, plus de 18 000 fusils d'assaut, les Kalachnikov, avaient été distribués en ville. Et tout le monde s'y met, le maire de Kiev, l'ancien boxeur poids lourd Vitali Klitschko, a lui-même passé l'uniforme et annonçait mettre en œuvre la défense de la ville, les armes à la main. Même chose pour l'ancien président Petro Poroshenko, il a lui aussi pris les armes et se retrouve d'ailleurs à la tête d'une petite escouade, fièrement équipée de lance-roquettes anti-chars fournis par les Britanniques et de canons sans recul. À l'heure où nous parlons, Kiev est et sera défendu.
Eric Biagala en direct de Kiev.
On en vient, Sébastien, maintenant à la pression diplomatique exercée sur Moscou. Les Européens ont décidé de viser directement Vladimir Poutine.
Oui, jusqu'ici, le président russe avait échappé aux sanctions économiques, mais les 27 membres de l'Union Européenne sont montés d'un cran aujourd'hui, avec dans le viseur le maître du Kremlin, mais aussi son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Alors, au-delà des mesures individuelles, l'Europe réfléchit aussi à sanctionner davantage encore le système financier russe, mais hésite encore à employer l'arme atomique financière, c'est-à-dire exclure la Russie du système SWIFT. La France y est désormais favorable, mais d'autres traînent encore des pieds. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Alors pourquoi est-ce si compliqué d'utiliser cette sanction contre Moscou ?
Parce qu'il s'agit avant tout d'une messagerie sécurisée. SWIFT est un réseau interbancaire international basé à Bruxelles, une sorte d'internet qui sécurise les échanges financiers entre toutes les banques de la planète. Sans ce système, les banques ne peuvent plus tout simplement authentifier, sécuriser sécuriser les virements et les paiements interbancaires. Voilà pourquoi les pays européens les plus dépendants de leurs échanges avec la Russie, comme l'Allemagne ou l'Italie, refusent encore ce soir de couper ce canal de paiement qui les empêcherait de sécuriser leurs transactions avec la Russie, à savoir payer leurs factures de gaz à Moscou. Exclure la Russie de ce système de paiement international n'a rien d'anecdotique et ferait basculer tous les paiements russes dans ce système, dans un système non sécurisé et impossible à authentifier. La Russie dispose de plus de son propre système interbancaire de transactions financières, tout comme la Chine, alors que 70% des actifs bancaires russes sont déjà bloqués en Europe et aux États-Unis. Couper ce réseau SWIFT ferait basculer la Russie dans un autre système financier, celui-là intraçable pour les Occidentaux.
Laurent Kramer, la Russie sanctionnée également dans d'autres domaines que l'économie. La Russie interdite de participer à l'Eurovision. Le Comité international olympique demande aux fédérations internationales d'annuler tous les événements en Russie et au Bélarus. Le Grand Prix de F1 prévu en Russie en septembre est annulé. Enfin, la finale de la Ligue des Champions est déplacée de Saint-Pétersbourg au Stade de France. À noter aussi ces deux réunions internationales aujourd'hui, réunion de l'OTAN cet après-midi pour éventuellement renforcer les forces militaires aux marges de l'Europe, et cette résolution pour condamner la Russie ce soir au Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie mettra sans surprise son veto à surveiller la position de la Chine, veto ou abstention. Au chapitre diplomatique encore, cette tribune de 116 personnalités dans le journal Le Monde aujourd'hui qui lance un appel pour l'Ukraine et pour sa reconnaissance comme État candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Les négociations en vue d'une adhésion n'ont jamais commencé pour l'Ukraine. Une tribune signée par l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, le député LREM Cédric Villani et par l'ancien député européen Daniel Cohn-Bendit. On l'écoute.
Les Ukrainiens, dans la situation actuelle, ont besoin d'un signe qu'on reconnaît leur volonté d'adhérer à la liberté et à la démocratie. Et donc, c'est un signe, ça aurait pu être un signe important de dire aux Ukrainiens, oui, votre perspective, elle est avec nous. C'est un symbole, un symbole, ce qui aurait pu être un symbole fort. Mais depuis hier, tout ça, c'est fini. Parce que aujourd'hui, l'Ukraine sera occupée où il y aura un gouvernement fantoche. Mais les perspectives, je veux dire, on a laissé l'Ukraine à Poutine. C'est fini. C'est une tribune, un aveu d'impuissance. C'est un aveu de voilà ce qu'on aurait dû faire. C'est peut-être pour nous donner bonne conscience. On les a laissés tomber. On les a laissés tomber.
L'ancien eurodéputé Daniel Cohn-Bendit. Message en tout point différent aujourd'hui devant le Parlement, celui d'Emmanuel Macron, lu aujourd'hui en même temps à l'Assemblée et au Sénat. Rien n'a été ni ne sera négligé pour venir en aide au peuple ukrainien, il dit. Nous leur devons soutien et solidarité. La guerre en Ukraine qui percute de plein fouet aussi la campagne électorale. Les candidats obligés de s'y adapter. À l'exemple de Anne Hidalgo, la candidate socialiste venue aujourd'hui au chevet de la communauté ukrainienne. Dans ce déplacement aux côtés de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, elle appelle à fournir des armes au pays. L'occasion aussi pour elle de relancer sa campagne, William Delesseux.
Anne Hidalgo donne rendez-vous à ses Ukrainiens de France au café Odessa, rue d'Odessa, au nom de la grande ville portuaire ukrainienne. La socialiste appelle à l'union presque sacrée de tous les candidats à la présidentielle.
Je cherche à porter la voix qui est la voix de la démocratie et la voix de la France et de l'Europe, de cette position profondément européenne qui est la mienne. Bien sûr que j'aurai des critiques à faire à Emmanuel Macron, mais dans cette épreuve qui nous est infligée par Vladimir Poutine, eh bien nous devons être unis.
Elle porte un badge azur et jaune aux couleurs de l'Ukraine, son pays. Mariana Perenbessuk attend des nouvelles de ses proches. Là-bas, ils ont fui la capitale.
Je vérifie mon téléphone tout le temps.
Anne Hidalgo qui vient la soutenir. Est-ce bien utile?
Tout soutien compte, toute action compte. Il n'y a rien qui est perdu.
Une candidate qui veut prendre de la hauteur, voilà qui passe aussi par la venue de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve.
On doit abandonner les sujets de petite politique, pour peu qu'ils nous aient un jour intéressés, pour nous hisser à la hauteur de ce que sont les problèmes du moment. Le faire aussi avec l'amour de notre propre pays.
Les sujets nationaux à l'arrière-plan, toute la campagne d'Anne Hidalgo jusqu'à son terme sera consacrée à l'Ukraine.
Ajoutons que la Tour Eiffel, ce soir, sera illuminée à Paris aux couleurs de l'Ukraine jaune et bleue. Et puis cette toute dernière information sur le dossier ukrainien, l'ancien Premier ministre François Fillon va démissionner de ses mandats dans des entreprises russes. Une interview à lire chez nos confrères du journal du dimanche.
On termine avec de la couleur et de la musique.
Une exposition sur le carnaval de Rio. Le carnaval aurait dû commencer aujourd'hui, mais à cause de la pandémie, les parades dans les rues ont été annulées, le défilé des écoles de samba reporté au mois d'avril. Si l'on veut quand même profiter de la fête, des plumes, de la samba, on peut se rendre à Moulins dans l'Allier, puisque le Centre National du Costume de Seine propose une exposition racontant cet événement à travers les tenues folles des participants. Amélie Perrier s'est glissée dans les coulisses d'une exposition en préparation depuis 2 ans.
Car la directrice du CNCS a commencé ses repérages lors du dernier carnaval en 2020. Une opération exceptionnelle puisque d'habitude, le centre récupère des costumes dans les théâtres ou les musées, nous explique Delphine Pinaza.
Là, on avait affaire plutôt directement soit des artisans, soit des ateliers, soit directement auprès des écoles. Et moi, j'ai eu la chance d'aller voir le dernier défilé qui a eu lieu, c'est-à-dire celui de 2020, et de pouvoir donc choisir un certain nombre de costumes.
Sauf qu'en 2020, rien ne se passe comme prévu, nous raconte l'autre commissaire de l'exposition, l'anthropologue brésilien Felipe Ferreira.
Pour la première fois, on a eu une tempête incroyable au dernier jour du carnaval. Beaucoup de costumes ont été abîmés. On n'attendait pas ça, parce que c'est jamais arrivé. Après ça, juste après le carnaval 2020, on a eu la question de Covid. Tout était fermé à Rio. Les hangars des écoles de samba où sont gardés ces costumes, fermés.
Mais à force de persévérance, plus de 150 costumes arrivent à Moulins pour raconter le carnaval de rue auquel des millions de cariocas participent et le défilé des écoles de samba, une compétition très codifiée avec des costumes monumentaux, 5 à 6 mètres d'envergure pour certaines robes, des plumes, des paillettes et beaucoup de couleurs. Dépaysement garanti au centre national du costume.
Voilà, Carnaval de Rio, l'exposition au Centre National du Costume de Seine, c'est jusqu'au 30 avril à Moulins et c'est à retrouver également à 6h55 demain dans les coulisses en format long sur France Inter.
Merci beaucoup, c'était le journal de Sébastien Legénie. On prend des nouvelles du temps.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Bonsoir Jean-Pierre Hameau.
Bonsoir Claire.
Vous nous annoncez une belle journée sous le soleil demain.
Et oui Claire, nous allons effectivement profiter de bonnes conditions anticycloniques, avec du soleil sur l'ensemble du territoire. Il faudra quand même composer avec des brumes ou des bandes brouillard au lever du jour, au nord de la Seine, mais aussi entre le nord-est et l'Auvergne, en passant par la Bourgogne et le Lyonnais. Toute cette grisaille va se dissiper avant la fin de la journée. À noter l'établissement d'un vent d'est parfois soutenu l'après-midi. Puis côté température, les minimales seront froides en fin de nuit avec des gelées quasi généralisées. Les maximales en légère baisse évolueront entre 8 et 16 degrés du nord au sud, avec 8 à Nancy et Besançon, 9 à Port-Bail dans la Normandie. Comptez 10 à Paris et Dijon, 11 à Brest, 12 à Lyon et Grenoble, 14 à Bordeaux. Prévoyez 15 en Avignon et 16 à Fréjus.
Et dimanche, Jean-Pierre ?
Eh bien dimanche, prévoyez un peu plus de nuages entre le Finistère et les côtes vendéennes et charentaises. Quelques grisailles tenaces à proximité de la Garonne et un très beau soleil partout ailleurs.
Ben, merci beaucoup Jean-Pierre Hameau de Météo France.